Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les démons de la critique. J'ai nommé Sophie Avon de Sud-Ouest, Michel Simon de Positif. Tu as mis une belle cravate ce soir.
Je préférais être le néon que le démon.
Avec Alain Rioux de l'Observateur et du Vélo, Cycloclub de Saint-Mandé. Et puis avec Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession, on parle ce soir évidemment du démon de Wendy Greffen, d'Alice, de l'autre côté du miroir, d'Ils sont partout, d'Yvan Attal, de films sur la guerre, Peshmerga et aussi A War, et puis d'un Roumain, Adrian Citaru, qui nous a tous beaucoup enthousiasmés, illégitime. Et du film de Thomas Vincent, La Nouvelle Vie de Paul Schneider. Dans le courrier de la semaine, eh bien, j'ai gardé tout ce qui m'est arrivé, une partie en tout cas, à propos du film de Paul Verhoeven, Elle. Et on peut dire que les auditeurs et auditrices surtout ne décollèrent pas. Eve Guillaume, Elle est un film sans fondement et dégradant pour la femme. Même sentiment de Nathalie de Grossouve. Comment peut-on aimer le film de Verhoeven? Je l'ai trouvé malsain, violent, vulgaire et surtout je le trouve insupportable pour l'image de la femme. Une femme qui en redemande après avoir subi un viol et c'est odieux. Valérie Gauthier. Ce film véhicule l'idée choquante et dangereuse qu'une femme peut éprouver du plaisir lors d'un viol. Annie Goujard de Paris, un viol sublimé par la violence, glorifié, recherché par la victime comme moyen d'accéder à l'extase. Ce très bon film est insoutenable. Nina Smidren de La Roche-sur-Yon est révoltée par les éloges du masque et la plume. Doit-on rappeler le nombre de viols non dénoncés chaque année en France du fait de la honte des victimes? Et puis je commence cependant à en avoir marre de voir Huppert se faire cogner dessus. Pour Mathias Turco, ce film laisse de marbre et lasse par son catalogue d'horreurs interminable. Je rappelle que le film de Verhoeven fait la une du positif de ce mois-ci
et
que
nous on confond peut-être le metteur en scène et son personnage. Je veux dire, c'est pas, il dit pas que c'est un personnage magnifique.
Donc c'est tiré, je le rappelle, d'un roman de Philippe Djian. Pascal Hénard trouve que Elle est une succession de clichés, le film qui porte la marque d'un cinéaste vieillissant qui veut choquer. Et puis beaucoup de lettres aussi de femmes, essentiellement comme Hélène Serfati, pour dénoncer la remarque déplacée, nous dit cette auditrice, d'Éric Neuhoff concernant Isabelle Huppert, qui n'aurait plus l'âge d'avoir ses règles. À quoi Christian Gollon répond, je rappelle que le personnage joué par Huppert a 49 ans, alors qu'un homme étale son ignorance de l'évolution des menstruations féminines avec l'âge, me désole. Bravo à Isabelle Huppert de pouvoir incarner un personnage de 10 ans plus jeune qu'elle. Elisabeth Hirsch, ce film n'existerait pas d'ailleurs sans Isabelle Huppert. J'ai eu la chance de l'admirer d'ailleurs au théâtre de l'Odéon dans Phèdre, où elle a effectivement ses règles et de façon spectaculaire. Ça, effectivement, nous aussi, on l'a vu à l'Odéon, mais on était moins séduits, les critiques. Marie Bougnet, elle, je crois que c'est la seule qui, pour finir, remercie Éric Neuhoff pour sa critique. Que ne l'ai-je écouté plutôt que ses confrères? Quel film plat! Rabaisser une femme en lui donnant un rôle de maso, ce n'est pas transgressif. Si Verhoeven voulait transgresser, il aurait mieux fait de faire d'Isabelle Huppert une sadique dominante avec fouet et autres instruments de torture. Mais je suis très frappé par cette violence contre le film de Verhoeven.
C'est un film qui divise beaucoup, ça c'est certain.
Oui, ben ça, je vois que tu fais une bonne conclusion, Michel, du courrier.
Ce qui est étonnant, c'est que c'est un film qui est aussi ludique, qui n'est pas que dans la violence, qui n'est pas que là-dedans.
Et puis qu'on a aussi aimé, je le rappelle, pour des raisons esthétiques.
Bien sûr,
pas simplement,
bien sûr, et puis c'est du romanesque. Sociétal. Ouais.
Allez, on commence vite avec, parce qu'on a beaucoup de films, je le disais, avec Alice, 5 ans après celle de Lewis Carroll, version Tim Burton. Voici donc celle de James Bobin, Alice de l'autre côté du miroir, avec Maya Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen, Anne Hathaway. Alice, elle revient de Chine en bateau, elle rencontre le papillon bleu, elle apprend que le chapelier fou se meurt de chagrin, elle remonte le temps. Le problème, c'est que si on enlève du film qui fait 1h48, si on enlève les images de synthèse et les effets spéciaux, il ne reste pas grand-chose, sans compter une musique, à devenir sourd, enfin, à vous faire regretter David Guetta. Et puis, c'est quand même très, très laid. Xavier.
Tu m'ôtes l'adjectif que j'avais mis en tête de mes notes. Laid.
Ah oui,
stupide.
Laid, hein.
Voilà, c'est une catastrophe absolue. Moi, j'étais plutôt client du film de Tim Burton, qui avait son esthétique, mais qui avait ses références picturales, qui avait son étude, le relief.
Il avait sa grammaire,
il avait son sens de la perspective, il avait son sens de l'image, il avait effectivement un travail, et puis surtout, il mettait les comédiens et les personnages en avant. Il y avait une complexité, il y avait une dualité, il y avait, comme toujours chez lui, chez la méchante reine, quelque chose de poignant, quelque chose de ténébreux, quelque chose d'attachant. On n'était pas dans la dichotomie bien mal, on était constamment dans une zone obscure. Alice l'intéressait évidemment beaucoup moins que les personnages secondaires. Et donc, je trouve que chez Tim Burton, il y avait une ligne qui n'était pas franchie, mais alors qui est là, mais alors franchie avec le maximum de mauvais goût et de vulgarité par ce réalisateur. C'est un film, mais insupportable, criard d'une laideur, tu l'as dit. Les couleurs, je pense qu'il faut interdire le film aux diabétiques, ils vont crever sur place, les pauvres. Je veux dire, c'est une catastrophe, c'est un déluge de guimauve. Le scénario est d'une bêtise sans nom. Non seulement c'est une trahison du roman de Lewis Carroll, mais en plus.
C'est même le contraire.
Ah, c'est totalement le contraire. Et lorsqu'on découvre que les deux sœurs, la Reine Blanche et la Reine Rouge, ouais, se détestent parce que lui a mangé des tartelettes, là on peut le dire, et qu'elle a caché les miettes pour ne pas être grondée sous le lit de l'autre, qui depuis porte cela comme une espèce de damnation, c'est ridicule sur les femmes, c'est ridicule sur Lewis Carroll, c'est absolument horrible. Je suis d'accord avec toi, la musique est effroyable. Sacha Baron Cohen, qui est un comédien que j'aime bien, cabotine au-delà du réel.
Ça fait longtemps qu'il a fait des bonnes
il
choses.
Il le fait bien néanmoins, et là, je veux dire, je suis ravi parce que le film ne marche pas, et je trouve que pour une fois, il y a une justice.
Sophie.
Je suis d'accord avec Xavier. On a l'impression qu'ils veulent tellement repousser les limites de la féerie, des effets visuels, ils veulent tellement faire plus et que ce soit plus grand, plus beau, plus spectaculaire, plus que du coup, on est en effet dans une avalanche d'effets.
Ça n'est que du numérique.
Mais ça pourrait être, ça pourrait être chouette, ça pourrait être. Mais là, on a l'impression d'être gavé aux effets et aux couleurs, en effet, les couleurs criardes. Et c'est-à-dire que ce récit d'initiation délicat, qui est quand même l'histoire d'une petite fille qui ressent des choses et qui les voit se personnifier, qui rêve, c'est une rêverie. Et là, c'est un blockbuster, quoi. C'est un blockbuster avec des effets.
Je suis même pas sûr que ça puisse toucher des enfants. Or, le film est destiné rassembler des foules d'enfants pendant l'été.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'imaginaire ne respire pas. C'est-à-dire que le spectateur, il n'a plus rien à faire devant ce film. Donc, il s'ennuie. Au bout d'un moment, on s'ennuie parce qu'on est gavé. Donc, c'est insupportable.
Michel ?
Oui, non, mais vous avez tout dit. Comme on a beaucoup de films, je vais être très bref. Non, simplement, je crois que ce film souffre d'un des défauts de l'art en Amérique et de la société américaine, c'est le trop. Il y a trop tout. C'est-à-dire, c'est une sorte, on empile, comme ils aiment les grosses glaces, ils aiment les gros seins. Il y a un goût de la. Non, mais c'est vrai. Il y a un côté chez beaucoup d'Américains.
Grosses glaces, gros seins, c'est intéressant. C'est intéressant.
Il n'y a pas que chez Fellini.
Le jour où je ferai ton portrait.
C'est un film avec effectivement chirurgie esthétique, quoi. C'est exactement ça.
Et alors là, c'est vrai que la bande son est absolument assourdissante. Et puis surtout, il y a le crime contre Lewis Carroll, parce que c'est pas possible de faire d'un chef-d'œuvre de la littérature un détournement aussi vulgaire. Aussi effectivement excessif en tout et d'une laideur, même s'il y a des emprunts à Beardsley, à Archimboldo, parce qu'ils ont dû beaucoup travailler, Le résultat est pitoyable.
Alain,
J'ai pas mieux. Je garde mon temps de parole.
Eh bien, c'est donc Alice de l'autre côté du miroir de James Bobin. Est-ce qu'il y a des réactions? Non. Bon, ça c'est fait. The Neon Demon, le nouveau film. Copieusement hué à Cannes. Enfin, il y avait des deux. Il y avait des sifflets et il y avait quelques applaudissements du Danois d'Hollywood, Nicolas Winding Refn, le réalisateur du fameux Drive, et dont j'ai appris qu'il était à la fois dyslexique et daltonien. Il aurait pu être d'ailleurs le réalisateur de la liste précédente pour ces raisons-là. Un film gore, j'hésite entre gore et gothique, avec Keanu Reeves et la jeune Ellie Fanning dans le rôle de Jessie, une oie blanche et vierge qui débarque à Los Angeles pour avoir son quart d'heure de célébrité et qui devient l'égérie d'un célèbre couturier, aux grand dam évidemment des autres top modèles. Un film d'horreur où on a droit à quelques meurtres, à du cannibalisme et même à une scène de nécrophilie lesbienne. Je crois que c'est l'entrée de la nécrophilie lesbienne dans le cinéma, version bling-bling de Massacre à la tronçonneuse. Michel ?
Je ne sais pas ce qui arrive à Winding Refn, que j'ai vraiment aimé dans, à ses débuts, des films comme Bronson, comme Pusher, comme Le Guerrier Silencieux, comme Drive, qui étaient vraiment des films d'un extrême talent, et on a l'impression qu'il a pété les plombs, que le succès de Drive, qui était effectivement justifié, on a vu il y a deux ans Only God Forgives, qui était déjà insupportable, et là, évidemment, le problème, c'est que il veut, paraît-il, critiquer une esthétique publicitaire, etc., un côté très chic. On pense aux photos de Helmut Newton, à Guy Bourdin, à toutes ces photos glacées, etc. Mais en même temps, il tombe lui-même dans le piège, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il prétend dénoncer. Et quand on voit, par exemple, sur un sujet pas le même, puisque le cas de Cronenberg, il traitait pas de la mode, mais il traitait de Hollywood et de l'arrivée d'une jeune fille dans Maps to the Stars à Hollywood. Il y avait une pensée structurée, il y avait un homme qui réfléchissait sur la civilisation hollywoodienne, tandis qu'ici, on a affaire vraiment à une succession extraordinairement lassante d'effets esthétiques que j'ai trouvé vraiment, vraiment insupportable.
Alors, j'ai trouvé que le film était idiot, mais sur une idée, sur un projet intelligent. Mais il y a un
c'est
problème.
Quoi, le projet,
de, le projet, c'est de montrer que la mode, le système de la mode est un moloch. Est un moloch qui dévore
on
les
verra dans le.
C'est un film sur le cannibalisme totalement assumé, qui malheureusement manque absolument de mordant. C'est embêtant pour le cannibalisme. Et c'est pour une raison
sauf
simple.
Le cannibalisme,
c'est que Refn est lui-même fabricant de films publicitaires pour la mode. Donc, évidemment, il y a un conflit d'intérêts flagrant. Il ne peut pas démolir des gens qui lui font faire fortune. Et il se heurte, c'est-à-dire que dans cette affaire de Moloch, il attaque non pas le système, mais il attaque les victimes, c'est-à-dire les filles. Et évidemment, on ne peut pas être satisfait de ça. Alors, il les présente. Alors, il paraît, d'ailleurs, il y a une chose qui m'a assez amusé, c'est qu'il est, paraît-il, bressonien. C'est-à-dire qu'il est, dans sa mise en scène, depuis toujours, rêve, c'est un de ses modèles, Bresson.
Ah
et
bon
là,
ah,
ça, il y a, là, on sent très nettement Bresson.
Même autrefois, il n'y a pas un seul de ses films qui s'apparente
à Bresson. On sent très nettement Bresson dans la direction des actrices. C'est-à-dire qu'elles sont totalement inexpressif. On dirait, effectivement, des personnages. Et ensuite, il y a quelque chose... Alors là, c'est peut-être une malice, mais ça m'a beaucoup frappé. La fille, l'héroïne, est présentée comme une fille totalement naturelle. C'est la nature face à la sophistication qui ne supporte pas ça et qui veulent la tuer. Or, dans un des plans, d'une façon frappante, on voit que cette blonde merveilleuse a des racines noires de 3 cm. Ce qui est quand même très curieux.
Il paraît que c'est la mode.
Peut-être. Sophie.
C'est moi, tout ça.
Sophie.
Moi, je trouve le film complètement raté. C'est-à-dire qu'on attendait Refn justement sur un sujet comme ça. Alors, c'est pas un sujet. C'est un sujet qui a été beaucoup exploité au cinéma. Hein, la jeunesse sacrifiée sur l'autel de la gloire. Il y a beaucoup de choses attelées à ce sujet, le vampirisme, tout ça. Et donc, on attendait justement à regarder le cinéaste. Il peut faire des trucs de pub et par ailleurs rester un cinéaste. Au lieu de quoi, comme le dit Michel, il a buté sur cette beauté mortifère sur laquelle il ne peut faire rien d'autre que du papier glacé. C'est un long clip, ce film-là. Et il joue à la poupée sans arrêt avec la famille. Il a poudre d'or. Il ne fait rien d'autre qu'en effet que ferait un photographe de plateau. Donc c'est absolument pas intéressant. Et de lui, de son rapport à la beauté, de son rapport à ce monde-là, on aurait pu justement se dire, en tant que cinéaste, il va nous dire des choses personnelles, bouleversantes, nous raconter des histoires qui au moins ont de la force, même pas. Et il y a un moment qui est déchirant où on se dit, voilà le film à côté duquel il est passé. C'est quand à la fin du film, on la voit, elle, sur le plongeoir, en contre-plongée, au-dessus de cette piscine vide qui va être son tombeau. Et là, tout à coup, on voit Iphigénie. Non, mais bon, on sait de toute façon, on sait comment les choses vont tourner. Bon,
maintenant,
bref.
Maintenant,
elle est au-dessus de cette piscine. Bon, et on voit.
Je vous le dis parce que vous n'imaginez pas le nombre de lettres que je reçois. Bon, alors on nous reproche de raconter
pas
la fin.
C'est qu'on n'a pas.
Vis-à-vis des auditeurs, c'est un minimum.
Non, mais on n'arrête pas de dire que c'est l'histoire d'un monde qui avale son.
J'entends bien, mais enfin.
Qui tue. On a pas arrêté de dire qu'on tuait justement l'innocence, etc. Donc on peut supposer qu'en effet c'est pas un grand suspense. Bref, donc, en tout cas à ce moment-là,
même le Titanic, faut pas raconter la fin.
Non, mais d'ailleurs je suggère que nous partions toujours une demi-heure avant la fin des films pour éviter cette tentation. On pourrait décider ça au masque.
Ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, on a l'impression de voir une Iphigénie. Il y a quelque chose de très beau à ce moment-là. Ce plan est vraiment magnifique parce que le reste du temps il fait des plans chics et chocs. Là, il y a un plan qui est vraiment habité, parce que c'est un plan qui a du sens. Et tout à coup, on se dit, voilà le film à côté duquel il est passé, qu'il n'a pas fait, c'est dommage. Voilà.
Xavier.
Je suis plus partagé que vous, c'est-à-dire que je n'aime pas au final complètement le film, mais je ne le déteste pas.
T'es tellement pervers que ça m'étonne pas.
Mais déjà, effectivement, le film est un peu fait pour ma perversion naturelle, pour mes fantasmes. Pour moi, c'est un grand film de préliminaire. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire qu'il passe son temps à me proposer des choses, à me promettre des choses, à m'exciter, à me titiller, à me pincer, là où ça peut être très désagréable, mais en même temps, au final, un peu agréable aussi. Je trouve que le film passe son temps.
C'est pas excitant du tout.
Non, c'est pas excitant au sens. Mais en termes de narration, il y a toujours des promesses, il y a toujours du hors-champ, il y a toujours quelque chose qui grince, il y a toujours un grain de sable dans le récit. C'est trop facile la manière dont elle arrive dans ce monde de la mode, c'est pas possible. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Elle a une beauté naturelle, mais elle n'a pas non plus la beauté absolue. Elle est immédiatement engagée, immédiatement reconnue. Bah. Donc moi, je me disais, chouette, il y a un loup dans la bergerie, elle va se venger, elle est là pour fomenter quelque chose. Pas tant que ça. Il y a un meurtre à un moment dans la chambre d'à côté, juxtapose celle dont elle habite dans un vieux motel. La scène est magnifique, on se dit qu'elle l'écoute comme ça, à la fois terrifiée et en même temps un peu intriguée par ce qui se passe à côté. Donc il y a constamment une promesse que le film pourrait être contaminé par quelque chose qui n'arrive jamais. C'est-à-dire que c'est vraiment le principe effectivement des préliminaires, c'est qu'au bout de 2 heures on se dit, si le mec il en est encore là, c'est qu'il a pas grand-chose dans la culotte, et effectivement malheureusement à la fin, l'orgasme, l'apothéose, elle a pas lieu et qu'il accouche d'une toute petite souris un peu chic, un peu tape à l'œil, à faussement choc, qui ne m'intéresse pas tant que ça. C'est-à-dire que vraiment il m'a monté un peu au rideau, et après je suis descendu tout seul, qui est toujours quand même la pire des situations. Non mais c'est super embarrassant, et je suis d'accord avec Michel, on nous promet plein de choses, et on a l'impression d'être resté...
Je pense que Winnie Greffen supportera mieux qu'on dise que son film est mauvais, qu'il n'en a pas dans la culotte. Ça, je suis pas sûr qu'il
appréciera. Écoute, il fera ce qu'il veut, mais je suis comme Michel, j'ai l'impression d'avoir passé l'après-midi chez Taschen à regarder un bouquin d'Edmund Newton, quoi.
Mais moi, ce qui me frappe chez ces cinéastes, pour moi, je le mets dans les cinéastes hollywoodiens de cette nouvelle génération, c'est la peur de la femme, la haine de la femme. Quand on pense au Mankiewicz, au Cukor, au Kazan, mais ils aimaient la femme. Les cinéastes des années 50, ils exaltaient la femme. Tous ces jeunes cinéastes, ils ont peur de la femme. Non, mais c'est frappant. Il y a peu de personnages féminins complexes, intéressants. Regardez Portrait d'une enfant déchue, un portrait d'un mannequin, qui est un film sublime sur la détresse des mannequins. Il n'y a rien qui passe ici. Aucun sens de la souffrance. Rien.
The Neon Demon, le film de Nicolas Winding Refn. Est-ce qu'il y aurait des réactions dans le public? Non. Ils sont partout. Un film à sketch d'Yvan Attal avec Benoît Poulevard, Danny Boone, Charlotte Gainsbourg, François Damias, Gilles Lelouch, Yvan Attal soi-même, et l'écrivain, psychologue, Toby Nathan. Quelle drôle d'idée il a eu d'aller là-dedans, à qui, entre chaque sketch, le réalisateur confie donc ses angoisses, ses peurs, ses obsessions, car l'idée du film consiste à illustrer, démonter, ridiculiser tous les clichés qui courent sur les Juifs. Ils ont de l'argent, ils s'entraident, ils ont le pouvoir, ils ont tué Jésus, ils sont partout, même dans ce parti d'extrême droite dirigé par une femme. Alors ça, c'est la première scène, et c'est Valérie Bonneton, mais suivez mon regard, dont le mari, c'est Benoît Poulevard, découvre soudain à la mort de sa grand-mère qu'il est juif et qu'il va le confesser sur le plateau de Marie Drucker. Ça, c'est donc le premier sketch. Dans un autre, on verra une femme à bout de nerfs, c'est Charlotte Gainsbourg, insulter son mari Danny Boone au prétexte qu'il est le seul juif sans thune. Je cite, On verra aussi le Mossad envoyer Gilles Lelouch en mission et en sandales. C'est un zogma ça. À Nazareth, pour liquider l'enfant Jésus. Et on verra Popek, qui est assez émouvant, je trouve, dans cette scène-là. Popek, dans une réunion publique, montrer le matricule de déportation sur son bras. Et on comprend évidemment l'intention théorique d'Yvan Attal. Et la question qui se pose, que j'imagine vous vous êtes posée, c'est à quel moment ça se retourne contre lui et contre presque les préjugés qu'il dénonce, Xavier.
C'est un film compliqué parce que si on dit qu'on le déteste, on risque d'être taxé d'antisémite. Et si on dit qu'on l'aime, on va être aussi taxé d'antisémitisme. Donc, parce que le film, effectivement, à un moment, se retourne tellement contre lui que je ne sais plus où me placer sur cet échiquier. Alors, on va essayer de rester sur celui du cinéma. Et c'est une catastrophe absolue d'indécence, de vulgarité, de facilité. Ça n'est à peine écrit. C'est-à-dire que le premier sketch un peu prometteur avec Valérie Bonneton en Marine Le Pen, disons les choses telles qu'elles sont.
Je ne l'avais pas dit.
Poursuivie par son mari ambitieux à qui elle aurait ravi la candidature et qui va peut-être la récupérer. Il y a un moment abominable où il la fait passer pour malade pour pouvoir prendre sa place et il lui rase à moitié la tête et l'habite d'un pyjama rayé. Et là, on se dit, le film ne se relèvera jamais de cela. Et effectivement, le film ne se relève de rien, à part l'effroyable bêtise du scénario et de la mise en scène qui, en plus, n'hésite pas devant des effets appuyés d'un goût douteux. Moi, la scène de Popek, elle me gêne, parce qu'effectivement, elle aurait dû être bouleversante, mais c'est l'histoire...
Il est émouvant, Popek.
Il faut la recontextualiser, c'est-à-dire qu'il est censé être atteint d'Alzheimer et de chanter une petite chanson écrite par François Damiens pour retrouver la mémoire de son numéro de portable. Et on lui dit 06, c'est les 06, 03, 03... Et l'autre fait non, 06 94, et il monte son bras au bout de 5 minutes, un peu embarrassante, pour le public dans la salle, pour le public dans la salle de cinéma. Et c'est un film, en tout cas, effectivement, qui veut contredire tous les clichés que l'on collerait ou que certains colleraient. Mais j'ai l'impression que ça a 40 ans, même s'il y a un vrai sujet à traiter sur l'antisémitisme aujourd'hui, il n'est pas dans le film. En tout cas, il y a un cliché dont Yvan Attal ne se remet absolument pas, c'est que je croyais que les Juifs avaient le sens de l'humour, et il ne l'a pas du tout.
Michel.
Moi, je trouve ça, tout ça absolument excessif. Je ne vois vraiment pas pourquoi ce bazooka. Je trouve que Yvan Attal, d'abord, c'est une personnalité attachante. Je trouve que son film, effectivement, ne ressemble pas tellement au film qu'on trouve en général sur les écrans.
C'est heureux.
Non, pas du tout. Mais on voit beau des films bien pires que ça qui ont des éloges.
Il y a une ambition de sujet, Michel, ça t'a pas échappé.
Non, excuse-moi, je ne comprends. Ils sont partout, évidemment. Ils retournent la phrase, c'est-à-dire que de l'antisémitisme, les Juifs sont partout. Les antisémites sont partout. Bon, et le personnage, d'ailleurs, fait son autocritique, parce qu'on lui reproche aussi de ne penser qu'à ça. C'est ce que lui dit son éthopsychiatre.
C'est toutes les scènes avec Toby Nathan dans le film.
Oui, absolument, avec Toby Nathan, qui sont assez drôles, toutes ces séances de psychanalyse. Donc moi, je trouve pas... Effectivement, c'est très inégal, comme tous les films à sketch. Je trouve que le péplum, là, avec le cri, etc., est interminable et raté. Mais je ne vois pas en quoi ce film serait vraiment l'abomination des abominations. Très franchement, je pense qu'il y a effectivement une recrudescence qu'on voit partout de l'antisémitisme en France. Et je vois pas en quoi ce film servirait les antisémites, en aucune façon.
C'est pas ce que j'ai dit,
il sert pas à l'antisémitisme, mais déjà, il est pas drôle. Bon, ce qui est quand même embêtant pour une comédie.
Par exemple, le personnage de Benoît Poelvoorde qui découvre, qui est une sorte de Jean-Marie Le Pen et qui découvre qu'il a une grand-mère juive.
C'est le mari de...
Oui, mais enfin, bon, on pense
aussi à Le Pen.
Moi,
ça m'a pas fait hurler de rire, mais après, je peux comprendre que toi, tu es.
Une grand-mère juive. Bon, c'est pas hilarant, je préfère effectivement les Marx Brothers. Bon, c'est sûr, mais c'est néanmoins.
Non, mais c'est surtout que le problème.
Ça mérite pas cette démolition.
Mais oui, parce que si tu veux, ce qui est dommage, c'est que moi aussi, je trouve qu'il est attachant, Yvan Attal. Et moi, j'aime beaucoup l'idée, d'ailleurs, que dès le départ, il dit c'est moi le malade. Et donc, moi, en tant que sujet malade, je vais me faire soigner chez Toby Nathan. Et puis, je vais. Et moi, ça m'aurait intéressé un film comme ça, où il parle de son obsession de la judaïté, de ses origines, etc. Et qui, petit à petit, il en arrive à l'antisémitisme et à la façon dont il perçoit ce pays aujourd'hui, qui est. Ça m'aurait intéressé. Mais le problème, c'est qu'il va tout de suite derrière le masque de la farce. Et cette farce, elle est censée renverser le cliché, comme on l'a dit. Elle est censée détourner le cliché, mais il le nourrit, le cliché, en fait. Il l'illustre tellement platement.
Le sketch d'Annie Boone, par exemple, et Charlotte Gainsbourg, pour le coup, très, très, très gênant, je trouve.
Non seulement c'est gênant, mais en plus...
C'est un petit peu anti-arabe à la fin. Les trois dernières minutes de ce sketch-là sont quand même très douteuses
mais
aussi.
C'est douteux, absolument. Et en plus, c'est tellement forcé, c'est tellement... qu'on n'a même pas l'espace pour se dire... Pour réfléchir, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas une fable qui nous fasse réfléchir à notre propre antisémitisme et qui nous permette de nous dire, et nous, est-ce que nous, ça nous arrive pas de penser à ça, par exemple? Mais on peut même pas se dire ça parce que le film, il emporte trop loin dans une espèce de farce qui, encore une fois, n'est pas drôle. Donc, du coup, le film est, je trouve, assez inepte, quoi. Tu vois, c'est pas qu'il s'agit de tirer au bazooka dessus, c'est juste qu'il a pas grand intérêt, quoi.
Alain?
Moi, je suis tout à fait de l'avis de Michel. J'ai ressorti la même chose que Michel, c'est-à-dire que je pense que nous avons vu beaucoup de films à sketch italiens qui n'étaient pas toujours extrêmement fins et raffinés.
On a entendu les mêmes critiques contre Dino Risi.
On a eu un peu d'aujourd'hui, les enfants.
Vous voyez les critiques de l'époque.
Non, mais enfin, je trouve que la partie
sur Dino Risi.
Il y a quelque chose.
Mes enfants. Je ne voudrais pas être méchant, mais
c'est à moi de parler, mais je laisse.
Non, mais vas-y, mais
exprimez largement. Non, je pense que c'est une farce. On a le droit de faire des farces. Les farces sont fondées sur le paradoxe. Celui qui préside à ce film est quand même assez amusant. J'aime beaucoup les scènes d'Attal et du psychanalyste, et j'aime beaucoup qu'un juif arrive en disant « je suis désolé, mais je vois des antisémites partout ». Docteur, je suis malade, ça, je trouve ça très bien. Et pour le reste, bon, c'est vrai que ça vole pas très haut, mais il y a quelque chose que je trouve positif en plus, et il y a quelque chose que je trouve positif en creux. Non, je l'ai pas aimé, mais je me suis pas vraiment révolté ni ennuyé. Et en plus, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'il prend des distances salutaires envers les religions. Et ça, toutes les religions, et ça, j'ai trouvé ça très bien. Il y a 4 ou 5 sketchs qui sont franchement anticléricaux. Il y a des rabbins ridicules et compliqués.
Oui, mais par parenthèse, l'histoire des deux ramoneurs qui est formidable, cette histoire qui est géniale. Il en fait un truc laborieux, alors qu'elle est extraordinaire, cette histoire. Et vraiment, il en fait un truc auquel on comprend rien et qui est
laborieux. Mais on a le droit de se moquer des rabbins. Oui. C'est très,
très bien.
Bien
sûr qu'on a le droit. C'est pas ça que j'ai dit, Alain.
Ils sont partout. Le film d'Yvan Attal, pas de réaction, non. Sur ce film, La Nouvelle Vie de Paul Snyder, c'est un film de Thomas Vincent avec Thierry Lhermitte, Géraldine Payas, et c'est tiré du roman de l'excellent Jean-Paul Dubois. Le cas Snyder et Thierry Lhermitte, c'est Paul Snyder qui est victime d'un accident d'ascenseur assez terrible, il faut dire, dans une tour de Montréal où meurt sa fille adorée, et quand il sort du coma, il remet toute son existence en question, et vu que sa femme le trompe, que ses deux fils le méprisent et que son boulot de cadre sup l'emmerde, il saute sur une petite annonce et il devient promeneur de chiens. Fallait-il 1h54, on peut peut-être en douter, mais en tout cas, on saura tout de ce qu'est ce métier. Pas toujours facile de promeneur de chiens. Prends des notes, Michel. Dans les parcs, Alain.
Moi, j'ai aimé le film, franchement, parce que c'est un film qui a un climat.
C'est de Montréal, on peut dire.
Non, plus que ça, c'était les personnages, le personnage, il y a 3 très très beaux personnages dans le film, et il y a des extérieurs, c'est très bien choisi, il suffit pas d'aller à Montréal pour que ce soit beau, il y a tout un travail de caractérisation, de repérage, qui est un beau travail, et il y a quelques scènes absolument magnifiques. Non mais le film évolue dans c'est-à-dire se tient à une atmosphère qui est vraiment...
C'est le propre du cinéma
très,
quand même.
Très très belle. Non, c'est pas le propre du cinéma, il y a énormément de films qui n'ont pas la moindre atmosphère, il y a énormément de films qui n'ont pas la moindre art, et il y a énormément de films qui n'ont rien du tout. Là, il y a quelques scènes absolument magnifiques avec l'ermite en particulier. Il y a 2 personnages qui sont superbes, qui est le maître des chiens, le promeneur des chiens. Il y a un avocat des ascenseurs, qui est un type très intéressant. La partie ratée, c'est la famille qui est trop caricaturale. Ça ne va pas avec ce film subtil, ce film intelligent. Mais vraiment, je le recommande très, très chaudement, malgré son climat froid.
Il faut préciser d'ailleurs que l'ermite est quand même filmé très, très, très souvent en gros plan, hein. Il a jamais été à ce point, il a occupé à ce point l'écran dans un film.
Mais en plus, il tient le coup, il a une présence formidable.
Je peux ?
Merci. Oui, assez
mais je suis d'accord avec toi en plus, Alain, et je suis en même temps d'accord avec Jérôme. Le film quand même souffre d'une longueur un peu inappropriée. Je pense que le ramener à 1h34 serait amplement suffisant. Mais en même temps, je l'ai revu parce que je l'avais vu il y a quelques mois cet après-midi.
Ah, tu l'as vu 2 fois.
Oui, parce que j'aime bien confirmer ou infirmer de temps en temps mes opinions. Et je trouve que les 20 premières minutes où on ne le filme que dans Montréal, dans ce funérarium où il va chercher l'urne de sa fille, il utilise vraiment au sens le plus intelligent du terme, les lignes géométriques de Montréal. C'est pas un Montréal pittoresque, c'est un Montréal froid. Il y a la neige évidemment, mais il y a aussi les lignes verticales de ces buildings dans lesquels il est. Il y a une manière de filmer à plusieurs angles le personnage, de passer comme ça dans les champs contre champs, d'une plongée à une contre-plongée, de rapprocher peu à peu la caméra de ce type qui est un mystère, qui ne réagit pas comme on voudrait qu'il réagisse face à ce deuil, face à la violence qu'il a subie et face à la violence de son épouse, parce que c'est l'histoire d'un type pour lequel les autres veulent vivre les ambitions qu'il n'a pas. C'est-à-dire que sa femme voudrait absolument qu'il aille au procès pour gagner de l'argent et pour assurer l'avenir de ces 2 imbéciles de rejetons. Et je trouve qu'ils sont assez amusants quand même, aux jumeaux un peu interchangeables. Et pareil, il y a un type à un moment qu'il va rencontrer, qui est un chien de race, qui veut faire des concours et qui a une ambition démesurée pour son chien et qui se dit que Thierry Lhermitte pourrait justement lui servir d'instrument. Et au bout d'un concours gagné, Lhermitte lui dit non, j'ai pas envie de continuer. Donc c'est quelqu'un à qui on veut toujours prêter des intentions qui ne sont pas les siennes. On n'écoute pas sa détresse, on n'écoute pas son envie d'aller ailleurs. Et ça, vraiment la mise en scène, le film remarquablement. Et moi, je trouve que, alors Thierry Lhermitte, on aurait pensé à Bakri dans le rôle de l'acrimonieux neurasthénique. Ouf, c'est pas lui, c'est
il
Thierry Lhermitte.
Bah ben
oui, c'est
déjà,
pour ça. Non, mais tu sais, les clichés, les premières idées. Et puis face à lui.
Je pense que Lhermitte promène mieux les chiens que Bakri.
Certainement. Ça, il est moins cabot qu'eux. On est d'accord. Ce qui n'est pas le cas de Bakri.
Il aime plus les animaux.
Mais Géraldine Pellas est extraordinaire. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Là. Je la trouve absolument bouleversante. Parce qu'effectivement, elle a les dents qui raillent le parquet. Elle l'a épousé d'ailleurs quelques années plus tôt. Pour ça, il était son supérieur.
C'est pas un rôle facile.
Chez France. Hein. Mais voilà. Et en même temps.
C'est un rôle inhabituel pour elle.
Mais absolument. Mais
elle a moi, je la trouve pas bouleversante. Je la trouve glaçante. Enfin,
c'est ah ouais, non, non. Moi, je trouve qu'elle lutte contre quelque chose d'elle-même. On sent une détresse. On sent un amour qui est en train de s'étioler. Elle a pris un amant, mais peut-être pas pour les raisons uniquement de désamour et désaffection. Je trouve qu'elle apporte de la complexité, de la nuance, du trouble dans ce personnage. Elle est glaçante. Et en même temps, il y a des moments où son côté carnassier s'interrompt, il se passe quelque chose, elle laisse passer une émotion. Elle joue avec très peu de choses, uniquement avec le visage et les expressions des yeux.
Ouais, ce qui est propre des comédiennes.
Non, général. Parce que tu peux avoir le bras, tu peux avoir le corps, tu peux avoir la main. Je trouve qu'elle elle donne énormément à travers ça. Donc oui, c'est plutôt, en dépit de sa longueur, inutile, une belle surprise.
Michel ?
Oui, c'est un film très étrange, d'abord. Il faut dire que c'est un film populaire, d'intention populaire, que la Gaumont a produit, d'ailleurs. Ils sont pas tellement dans l'expérimental. Mais d'ailleurs, c'est à chaque fois un Vincent. C'était l'année dernière, c'était Christian...
Ah, Christian Vincent, absolument.
Oui, c'était Christian Vincent avec Lhermine.
Ah, Lhermine.
Voilà. Et, avec, à nouveau, Fabrice, un autre Vincent Fabrice avec Coutini, ce film, qui est Lhermine. Effectivement... Je dirais que c'est pas Thierry Lhermitte, c'est Bernard Lhermitte. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est dans sa coquille.
Oh, joli.
Qui est dans sa coquille pendant les trois quarts du film. Il se protège du
avec
monde.
Plus de douleur et de souffrance que
le Bernard. Je connais pas assez la vie des
Ah
Bernard
si, moi, je connais bien.
Mais en tout cas, il est dans sa coquille, il se protège, etc. Il conduit ses chiens comme Jerry Lewis dans un film célèbre où il est entraîné par des chiens. Bon, il y a aussi le rapport avec la compagnie d'assurance, les ascenseurs, etc. Il y a tout un monde autour de lui. C'est tout de même un thème déjà traité parce que c'est Charles Moreau vif, c'est-à-dire quelqu'un qui va changer de vie, qui va prendre une autre orientation. Mais effectivement, à part cette longueur, vous avez eu raison de souligner, je pense que c'est un film très singulier dans le grand cinéma populaire français.
Oui, moi j'aime beaucoup le film aussi. Je trouve qu'en plus, Thomas Vincent, il a le courage. Au début, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, on est dans ce noir et blanc dont parlait Xavier, cette ville, cette neige qui tombe, cette ville déserte, et dans quelque chose de très douloureux avec cet homme qui arrive et qui
est engourdi.
Qui est engourdi, absolument, parce que lui-même est engourdi et qu'à la fois il est dans le chagrin, il est dans le deuil, mais en même temps il est à la recherche de ses souvenirs. Donc, et puis il y a quelque chose d'un peu goguenard qui se produit et on se dit, oui, il va trop vite aller vers quelque chose de goguenard parce que le bouquin a quelque chose de ce ton un peu goguenard, ironique parfois. Et là, pas du tout, il reste en fait dans la gravité et il en rajoute même dans la langue. Dans la contemplation, dans la recherche, dans le silence, il dit jamais rien. Et je trouve qu'il est très courageux parce qu'il arrive justement à s'enfoncer dans cette blancheur-là. Et le passage à la Renaissance, il finit quand même par arriver à cette espèce de facétie colorée qui est avec les chiens. Et quand il apparaît comme ça sur scène, c'est comme une sorte de Renaissance. Et je trouve que c'est très beau la façon dont Thomas Vincent arrive de passer comme ça du noir et blanc et de l'engourdissement du deuil à cette espèce de Renaissance facétieuse. Et en effet, Lhermitte, moi, je sais pas un comédien que j'aime spécialement, mais là, j'ai trouvé dans la présence grave qu'il a et la façon qu'il a d'aller vers cette facétie, ce côté presque dandy, je l'ai trouvé formidable, vraiment formidable. Le film est très beau.
La nouvelle vie de Paul Schneider, de Thomas Vincent avec Thierry Lhermitte. Et je vous annonce d'ailleurs d'ores et déjà qu'il y aura un nouveau roman à la rentrée de Jean-Paul Dubois qui est très fort et très émouvant. La nouvelle vie donc de Paul Schneider, tiré, je vous le disais, du cas Schneider de Jean-Paul Dubois. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film ? Non. On passe à Illégitime. Après les films de Christiane Mungiu et de Cristi Puiu, qu'on a vus au Festival de Cannes, donc Illégitime, d'un autre Roumain, Adrian Sitaru. Tout commence par un dîner de famille plutôt arrosé à Bucarest, un père, une mère, leurs quatre enfants, et puis soudain le ton monte et les deux frères et sœurs, Roméo et Sacha, qui sont jumeaux, demandent des comptes à leur père de manière très, tout d'un coup, très violente. Il faut dire qu'il était gynécologue du temps de Ceausescu et qui dénonçait à la Securitate les femmes qui voulaient se faire avorter. Donc ça monte, le ton monte, on s'insulte. Il y a même un moment où on en vient aux mains. Je trouve que c'est une très grande violence. Enfin, on en a vu des dîners de famille filmés
au cinéma.
Mais là, tout d'un coup, on a presque la chair de poule. Alors, à cette violence-là, s'ajoute en plus un drame digne des tragédies grecques, puisque le frère et la sœur, donc qui veulent tuer le père, au sens propre, entretiennent une relation incestueuse et même attendent un enfant. On voit que c'est du lourd, hein, comme on dit dans les tontons flingueurs. C'est-à-dire que c'est non seulement le procès politique, mais en plus la tragédie grecque. Tout cela tourné en sépia, caméra portée, un peu façon docu-fiction. Et moi, j'ai été mais presque subjugué par ce film qui, pourtant, en matière d'image, n'en rajoute jamais. Hein. C'est l'anti-Reffen. Je suis heureux d'ailleurs de savoir qu'il fait la une de positif. Comme quoi, vous avez parfois encore du pif dans cette honorable revue, Michel.
Oui, c'est
une... Aide-moi à en dire du bien de ce film.
C'est une école roumaine passionnante parce que, en même temps, ils ont beaucoup de choses en commun tous et ils sont tous très différents. Le film, évidemment, c'est un clin d'œil aussi à 4 mois, 3 semaines et 2 jours, dont on se rappelle la Palme d'Or qui traitait l'avortement déjà. Donc il y a déjà une référence. D'ailleurs, l'acteur principal, Adrien Titieni, c'est aussi la vedette de Baccalauréat, le nouveau film de Mounjou qu'on a vu. Il est médecin dans les deux films, dans le film de Mounjou qu'on a vu à Cannes.
Et il a joué dans tous les films de Sita Roux.
Films roumains, ils sont tous médecins. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
Absolument.
Il y a un problème. Hein.
Et eux-mêmes sont des metteurs en scène médecins, c'est-à-dire qu'ils tâtent le pouls de leur pays. Ils analysent, ils décortiquent. Il y a un rapprochement avec les Polonais des années 80-70 de Kieslowski, de Zanussi.
C'était plutôt plombier
que films de l'inquiétude morale. La grande école polonaise qui parlait de l'inquiétude morale, qui est à la fois une interrogation psychologique et sur des individus, mais aussi une interrogation sur l'histoire de leur pays. Parce que, évidemment, l'ombre du communisme flotte tout le temps dans ces films. Traité en plan séquence, avec une caméra qui n'est jamais ostentatoire, mais qui suit les personnages avec une très grande fluidité. Et c'est vrai que c'est absolument passionnant à suivre.
La scène du dîner, c'est presque un seul plan séquence, d'ailleurs.
Voilà, hein. Et il y a à côté Piala. Enfin, on pense au film de Piala, à Loulou, à des films comme ça. Il y a une sorte d'intensité, une dramaturgie extrêmement réaliste. Et effectivement, Sita Roux, qui a fait 4 films, on n'en connaît que 2, Pique-Nique et celui-ci, c'est dommage, on a envie de voir les autres. Et puis, il n'y a pas que lui, il y en a encore.
Mais à Cannes, on a parlé de ces deux qui étaient en compétition, mais il y en avait 3 autres.
Il y en avait un sur les chiens extraordinaires.
Dogs,
qui était à certains regards.
Il se passe un truc avec
un premier film très impressionnant.
Mais depuis 10 ans, depuis 10 ans.
Oui, absolument. Sophie.
Oui, c'est passionnant parce que, comme l'a dit Michel, il y a cette espèce d'école roumaine comme ça, où il y a toujours, où la cellule familiale est un peu la métaphore du pays. On fait dégorger le passé sans arrêt, l'époque Ceausescu est là, les hantes, et on sent. Et en même temps, c'est des fables philosophes. Enfin, c'est vraiment des fables morales qui vont au-delà de tout ça. C'est-à-dire qu'en effet, il y a la politique, en effet, il y a la métaphore de la société, il y a les problèmes intimes, et puis en même temps, c'est vraiment des problèmes moraux. Et là, le film, il est quand même super fort parce que entre cette première scène qui est très très forte et la dernière dont je ne dirai rien, mais qui est une réponse à la première scène, hein, on peut le voir. Entre les deux, il y a cette espèce de façon de montrer l'inceste entre ce frère et cette sœur, mais comme quelque chose de beau, comme quelque chose de beau. Alors, évidemment, avec ça, mais c'est surtout, enfin, le film dit, c'est quand même un film aussi sur la vérité et le mensonge. Quel prix on est prêt à payer pour dire la vérité, pour assumer qui on est? Est-ce qu'on est prêt jusqu'à transgresser le tabou suprême, qui est le tabou de l'inceste, même si c'est un inceste présenté, finalement, de manière, mais c'est quand même énorme de transgresser un inceste. C'est énorme. Mais le film pose ça, c'est-à-dire qu'il est très trouble, parce qu'en fait, il n'a aucune réponse, mais il a une question qui est terrible, qui est celle-là. Jusqu'où on va pour dire la vérité et pour se débarrasser du mensonge du communisme. Jusqu'où on va? C'est quand même une grande question existentielle.
Alain,
moi, je l'ai pris plus au premier degré, mais c'est une histoire en elle-même, une histoire absolument formidable. C'est une histoire, vraiment un conte noir, magnifique, et très, très audacieux, et qui arrive à concilier l'amour fou et le cynisme. C'est très curieux. Il y a quelque chose de très profondément humoristique à l'intérieur de ça. Et je vais faire une réserve quand même. C'est ce que tu as appelé le côté sépia.
De l'image, oui.
De l'image, là, c'est pas bien. Le film, l'image est franchement moche et franchement plate. Et il y a un problème d'éclairage. C'est mal éclairé. Ben oui, bien sûr. Croire que chercher la vérité, mais c'est volontaire, c'est absurde.
Tu dis, c'est un problème
d'éclairage.
La
vérité a besoin de lumière. Plus vous mettez de la lumière sur la vérité, plus ce sera beau. Et quand vous comparez ça à Piala, c'est vrai pour des quantités de choses, mais Piala avait un chef opérateur qui s'appelait Loiseleux, je crois, qui était merveilleux. Il y a une beauté de la lumière des films de Piala qui rendent justement supportable la vérité.
Pardon de te dire que tu as tort.
Ça manque
un petit peu non.
Si t'avais surexposé ce...
Mais il n'y a pas besoin de surexposer. Enfin, il y a mille nuances de la lumière. Mais c'est comme si tu disais, je ne sais pas, moi, si Michel-Ange avait fait des tableaux moins beaux, s'il avait moins bien éclairé la Sixtine, le tableau aurait été meilleur. Enfin, c'est absurde. Le film est moche, c'est tout.
Mais le film n'est pas moche, le film est extrêmement cohérent dans sa mise en scène et dans son éclairage, parce que c'est pas un film justement sur la vérité.
Il y a une faute de photo.
Mais non, c'est pas un film sur la vérité, c'est un film sur le trouble, c'est un film sur le non-dit, c'est un film sur ce qui est caché, c'est un film qui justement, par sa mise en scène et par sa lumière, arrive à filmer des scènes de procès, de tribunaux familiaux, parce qu'effectivement, Sophie a parlé de cette scène de fin qui répond à la première, mais il y en a une intermédiaire où le frère aîné prend la place du père, et là encore, il y a le procès de la mémoire, le procès de la famille, et la même mise en scène arrive à tourner cet inceste avec infiniment de douceur, arrive en dire le côté fusionnel, le côté refuge, le côté magnifique, et nous sommes troublés, il n'y a pas de vérité jusque-là, on est au contraire dans la remise en question, et chez les personnages, et chez le spectateur, de notre décision, de notre intime, c'est un film qui nous laisse énormément de libre arbitre, d'intelligence, et la fin ne se ferme absolument pas, c'est pour ça que c'est pas un film sur la vérité, c'est un film sur infiniment de vérités possibles, probables, acceptables, je trouve que le travail que l'on fait, le chemin que l'on fait avec ce film, que les personnages font avec cette histoire, et nous avec eux, est absolument magnifique. Effectivement, c'est l'année de la Roumanie, et les quatre films qu'on a vus à ce jour sont formidables, et je suis ravi qu'on en parle tout au long de l'année.
Eh bien, c'est Illégitime, le film très bien éclairé d'Adrian Citarou. Pas de réaction sur ce film. Allez, on termine. Oui, il ne reste pas beaucoup de temps avec deux films. War, une guerre, le film du Danois Tobias Lindholm, qui se déroule au début en Afghanistan. Dans la première partie, un officier qui commande une section au sud-ouest de Kaboul patrouille avec ses hommes pendant que sa femme se bat pour élever leurs trois enfants à Copenhague. Et dans un village qui est aux mains des talibans, Pedersen se retrouve sous le feu de l'ennemi. Pour protéger ses hommes, il va demander une frappe aérienne. Résultat, 11 civils sont tués et il va être traîné, ce Pedersen, cet officier, devant la cour martiale pour crime de guerre et encourir d'ailleurs plusieurs années de prison, avec une scène qui est juste avant, la scène où ce soldat de 21 ans saute sur une mine, qui est une scène terrible. Sophie.
Je suis désolée, je me suis emmêlée les pinceaux, non, et du coup, je ne suis pas allée le voir, je suis désolée.
Michel.
C'est un film passionnant parce que d'abord, c'est un film protestant, en fait, d'une nation protestante, c'est-à-dire qu'il présente des problèmes moraux, ce qui n'est pas toujours le cas dans les films de guerre. Mais en même temps, c'est aussi un film de guerre remarquablement réalisé, c'est-à-dire qu'on sait que le film de guerre, les Américains sont des maîtres. Parfois, ils font des très mauvais films de guerre, mais ils savent aussi filmer la guerre de façon remarquable. Et je trouve que ce film alors, on ne sait pas ce qui est le plus dur dans ce film. Est-ce que la guerre n'est pas plus terrible dans un prétoire que sur le terrain? Parce que je sais que je veux faire un paradoxe, mais les scènes de prétoire sont glaçantes aussi. C'est-à-dire et c'est ça qui est très fort. C'est-à-dire, c'est ce va-et-vient entre les scènes de combat. Alors, on pense évidemment à ce très beau film français de Cogitor l'année dernière, Ni le ciel ni la terre, un peu ce
mais
côté.
Mais où il y avait du fantastique chez Cogito.
Voilà, dans l'éclat, là c'est d'un réalisme.
C'est du réalisme
brutal. Mais il y a
toujours
une chose intéressante, c'est le rapport qu'il y a entre la technologie de l'équipement guerrier et d'autre part la très faible efficacité des soldats. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les soldats sont dans une situation constamment d'hésitation, ils sont un peu paumés, et à côté de ça, il y a cette prodigieuse débauche d'armes de guerre et d'armes de destruction. Et puis il y a cet épisode, effectivement. Enfin, cette deuxième partie qui est le tribunal, que je trouve également passionnante. Et est-ce qu'on peut faire la guerre? C'est toujours le même problème. Est-ce que la guerre est justifiée avec les débordements qu'elle entraîne? Et dans un pays protestant, il est probable que ce genre de questionnement est encore plus aigu que chez nous.
Xavier.
Je suis entièrement d'accord avec Michel. Je trouve que c'est un film dont j'ai redouté pendant les 3-4 premières minutes qu'il soit un peu didactique, un peu démonstratif, un peu simplifiant son propos. Et en fait, grâce à l'écriture, grâce au scénario, grâce au montage parallèle entre lui sur le terrain, sa femme chez elle, les scènes sont magnifiques quand elle attend les coups de fil et les scènes de prétoire. C'est un film qui travaille trois tensions différentes, la tension du terrain, la tension de l'attente et la tension du procès, de manière tout à fait synergique, tout à fait intelligente.
Donc la question est très compliquée. Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce qu'il a eu tort?
Mais absolument. C'est pas facile.
Là aussi, la question demeure.
Chez chez les Roumains, c'est l'inquiétude morale.
Absolument. Et grâce à la mise en scène, il y a suffisamment d'images manquantes au sens objectif du terme pour que nous-mêmes, on soit obligés de, bah, d'avancer nos pions, de vérifier nos certitudes et de les remettre en question. Et je trouve que c'est un film toujours beaucoup plus intelligent et malin qu'il n'en a l'air.
Alain.
Là, je me suis aussi emmêlé les mêmes pinceaux.
Oui,
c'est dommage que c'est très bien éclairé.
Nous n'étions pas ensemble. Non, c'est dommage.
On peut parler de Retour chez ma mère.
Vous allez voir les Danois de Vindingreffen, mais pas les Danois de la guerre.
Et donc c'est War, et c'est Tobias Lindholm, et rapidement Peshmerga, le documentaire que consacre Bernard-Henri Lévy à ces Kurdes irakiens qui se battent contre Daesh, et qu'il a suivi de juillet à décembre 2015 sur les 1000 kilomètres de la ligne de front qui sépare leur pays de l'État islamique jusqu'au nord de la Syrie. Et donc on les voit se battre, on voit même un général, enfin on voit pas l'image, mais un général sans casque qui va être frappé d'une balle en pleine tête, et puis ces femmes en béret rouge qui sont assez incroyables et qui sont tellement heureuses d'aller, si j'ose dire, affronter les djihadistes parce qu'elles sont convaincues, enfin elles savent que pour eux, être tué par une femme, c'est de ne pas aller au paradis. Et c'est vrai que on s'est parfois, allez, on s'est beaucoup moqué des films de BHL à cette tribune. Là, il est quand même, mis à part peut-être le
commentaire,
le commentaire dont on va parler, il est quand même d'une discrétion quasiment exemplaire. Alain.
Ah oui, moi je suis d'accord. Je le trouvais très très bien ce film, très très bien. Et quand même, j'ai réfléchi sur la question.
Très bien éclairé quand même.
Il est magnifiquement éclairé par le ciel et par l'éternité. C'est ça qui est fort là-dedans. Mais je pense que le commentaire était nécessaire, parce que sinon on ne sait rien, on ne voit pas énormément de choses. Ça nous apprend énormément de choses sur cette guerre, sur la géographie de cette guerre. Ça nous apprend énormément de choses sur notre lâcheté, sur la nature humaine, sur la force de ce peuple. Moi, j'ai trouvé ce film absolument indispensable. Il faut aller le voir.
Xavier,
je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a des images d'une force incroyable.
Au début.
Voilà. Au début mais même force. Dans la continuité, je veux dire, vraiment, il y a trois chefs opérateurs, enfin, il y a trois, en tout cas, caméramans.
Dont un va être blessé pendant le...
Absolument.
Il va sauter sur une ligne. Mais je suis désolé, le boulot du documentariste, si Bernard-Henri Lévy acceptait 30 secondes de lettre, c'est d'aller, justement, peut-être poser des questions. Il approche d'assez près certains personnages, un général, dont il nous annonce d'emblée qu'il ne verra pas la fin du film, ce qui n'est pas non plus un effet de trailer très intelligent. Ces femmes, soldates, qui prennent les armes et qui sont, paraît-il, le cauchemar des islamistes, qui redoutent d'être tués par une femme, parce que ça leur interdirait le paradis. Et on voudrait qu'il leur pose des questions. Non, il est là, avec son texte, emphatique, bourré d'inspiration. Il se prend pour Malraux, et à la fin, j'ai l'impression d'avoir vu l'émission de Stéphane Bern, ce qui est quand même un tout petit peu dommage. Non, mais je vous jure, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il est tellement en train de chercher l'adjectif, l'épithète, la formule, l'imparfait, le subjonctif, qu'il y a de la musique. C'est quand même fou. Oui, oui. C'est-à-dire que sur ce son, sur ce silence, sur la gutturalité de la nature dans laquelle...
Voilà,
la gutturalité. Non,
gutturalisme. J'ai compris la culturalité.
Bon, on va en tout cas sur la violence du terrain, on ne l'entend pas, il y a toujours de la musique.
Michel.
Quand j'étais enfant, j'avais peur des chiens, et donc j'ai toujours résisté à être un chien de Pavlov, c'est-à-dire à réagir automatiquement de la même façon à un artiste qui me propose quoi que ce soit. Et c'est vrai que j'ai trouvé son film Le jour et la nuit comme une des films comiques involontaires de l'histoire du cinéma. J'ai trouvé Bosnia insupportable et Le serment de Tobrouk sur la Libye insupportable. Et à ma grande surprise, j'ai vu ce film avec énormément d'intérêt. D'abord, je trouve pas du tout que le commentaire soit hurlé. C'est au contraire, c'est un commentaire susurré, plutôt très bas. Oui, mais d'autre part,
il
n'est pas
susurré, Michel. Non, tu peux pas
dire ça. On l'écrase en disant ce n'est pas Frédéric Wiseman, ce n'est pas Raymond Depardon, ce n'est pas Claude Lanzmann. Mais évidemment, personne ne pense. Mais de là à le ridiculiser à chaque fois qu'il prend la plume ou qu'il fait un film, je trouve que c'est complètement faux. Ce film est le premier film qui attache, en tout cas en France, qui attache de l'importance aux Kurdes. Les Kurdes dont on ne parle pas. C'est tout de même un peuple qui a 95...
Mais qui ne parle pas non plus dans le film, Michel.
Il en parle.
Oh, il ne parle comme
c'est
ça.
C'est un peuple qui a...
Mais les Kurdes ne parlent pas, c'est quand même un peu gênant.
Bon, je t'ai laissé parler. 95% des gens sont alphabétisés. Ils ont un service de santé. Les femmes votent. Ils ont des élections démocratiques. On n'en parle pas à 8 heures dans les médias. Jamais. Jamais. Les Kurdes sont ignorés. on leur en veut parce qu'ils ont fêté ils ont fêté l'arrivée des Américains en Irak et la destruction de Saddam Hussein. Et pourquoi ils l'ont fêté, cette arrivée des Américains? Parce que 500 000 Kurdes avaient été assassinés par Saddam Hussein, comme on a fêté en 1945 l'arrivée des Américains. Je ne parle pas, je parle pas de politique, je ne parle pas de ce qui s'est passé après, des erreurs monumentales des Américains. Je parle simplement que les Kurdes sont un exemple de musulmans qui ne tombent pas dans aucun des excès de leurs voisins. Donc je trouve que Bernard-Henri Lévy, en montrant la grandeur de ce peuple, son courage, etc., nous donne des images, il nous fait un commentaire qui éclaire, mais c'est pas son rôle, n'est pas de faire des interviews, c'est pas son film. Quand Gide va au Congo et qu'il fait voyage au Congo, quand il va en URSS et qu'il fait le retour de l'URSS, Gide n'interviewe pas les gens, il fait un carnet de bord. Bernard-Henri Lévy fait le carnet de bord de Bernard-Henri Lévy, ce qu'il a vu sur place. Il fait pas un film d'interview, c'est autre chose. C'est ce que fait Depardon, c'est pas son rayon.
Sophie.
Non, mais que BHL ait du mérite et fasse un film utile, pédagogique et à la gloire des Kurdes, c'est formidable et on est tous d'accord avec ça et je pense que Xavier est d'accord aussi avec ça. Mais là où je suis complètement Xavier, c'est que son film manque singulièrement d'incarnation. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas d'interviewer les Peshmerga, mais son film s'appelle Peshmerga. Il ne les traite pas comme des personnages et je trouve que ça, c'est... Alors en effet, c'est incarné de guerre et pourquoi pas. Oui, mais... elles existent, mais il cherche à les traiter trop dans une espèce d'entité au lieu de s'attacher à des personnages. Et ça manque. Et ce jeune général dont il dit tellement qu'il est solaire et qu'il va mourir, même lui, il ne donne même pas son nom. On ne sait même pas comment il s'appelle. Donc ce que je veux dire, c'est que ce film, qui par ailleurs est utile, tu as raison, est pédagogique, et tout ce que tu veux, et je suis très...
Je trouve que c'est un tout petit film, mais on peut
cinématographiquement penser quand même que c'est un documentaire qui est un peu faible et qui justement...
Il y a des images qui sont très fortes quand même.
Oui, il y a des choses bien... Je le jette pas complètement. Je dis pas que c'est nul. Je dis juste que moi, j'ai été frustrée de pas avoir des personnages et que la seule incarnation du film, c'est en effet cette voix emphatique et chantante qui, à la fin, est un peu pénible et vampirise quand même le reste du film. C'est tout ce qu'on dit, voilà.
Peshmerga, Bernard-Henri Lévy, c'est un film, un documentaire qui fait 1h30 d'ailleurs. Allez, un conseil, mais vite, vous citez plutôt un film ou un livre, Sophie.
Alors, le film, c'est un documentaire qui s'appelle, qui est formidable, qui s'appelle Monsieur Gaga sur les pas de Narine, qui est un grand chorégraphe. C'est un film de Tomer Heinemann et c'est vraiment, vraiment super.
Le conseil de Michel.
Alors, moi, c'est un film indien, pas Bollywood, un film plutôt réaliste, contemplatif, mais que je trouve assez remarquable, qui s'appelle La quatrième voie de Gurvinder Singh. C'est deux récits parallèles. Il y a d'une part deux hindous et deux sikhs, les fameux sikhs qui sont opposés à Indira Gandhi, qui voyagent la nuit dans un train. C'est très, très mystérieux. Et d'ailleurs, c'est la plus belle scène de train avec Julieta de Almodovar, une sublime scène de train aussi. Et puis, d'autre part, ils essayent d'atteindre une ville qui est interdite par les autorités. Et puis, en flashback, il y a la ville où vivaient les parents d'un des sikhs. Et là, au contraire, ils sont entourés de menaces, etc. Il y a un chien à nouveau, qui joue un rôle très important. Voilà. Allez voir, découvrez La quatrième voie de Gurvinder Singh.
Je vous conseille, moi, pour ma part, un très joli livre d'Elisabeth Gousseland qui s'appelle Truffaut et les femmes, chez Grasset, où passent toutes de Jeanne Moreau, Françoise Orléa, Catherine Deneuve, Annie Ardant, une sorte de carte du temps dans le Paris des 400 coups, une enquête aussi d'ailleurs. Il les a tant aimées, elles lui rendent bien, écrit Gousseland, et on sent bien d'ailleurs qu'elle aurait bien aimé qu'un jour François Truffaut se penche sur elle. Alain.
Alors moi, c'est un récit que publient les éditions du Seuil qui s'appelle « Une femme à l'ardresse » qui a été écrit par Annie Miller, qui est productrice, femme de Claude Miller, sur sa grand-mère, qu'on a vue dans des films de Bresson, dans des films de Truffaut. Et c'est une femme absolument extraordinaire, c'est une dure à cuire à la John Ford, c'est-à-dire qu'elle s'est mal conduite, mais bien, elle a fait... on voit un siècle de France qui a du mal à vivre, hein, un siècle de France où elle se bat, c'est une espèce d'ascenseur social pour sa famille. C'est un grand personnage et il faut lire le livre.
Bella e Perduta de Pietro Marcello, qui avait réalisé La Bocca del Lupo il y a 7 ans. Et c'est une poésie visuelle absolument magnifique qui parle de l'Italie d'hier, d'aujourd'hui, peut-être de demain, libérée de la mafia, avec dans les rôles principaux un polichinelle et un buffle.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Sophie Avon, Michel Simon, Xavier Loherpeur et Alain Rioux pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Sella. Mais ce soir, au Charles Trenet, À la technique, il y avait Jean-Louis Deloncle, Philippe Mercher et Yacine Monet. La réalisation était signée Didier Lagarde. Vous notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, c'est jeudi prochain, le 16 juin. Je vous attends à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au film, l'autre au livre. On parlera de théâtre dans une semaine, à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.